Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Colombie, première partie. Notre arrivée en Colombie est particulière parce qu'elle est marquée par les premières dernières fois. La Colombie est notre dernière étape dans ce voyage d'un an. On va y passer 6 semaines. Alors quand on passe l'immigration pour rentrer en Colombie, on se dit « c'est la dernière fois qu'on fait une étape d'immigration lors de notre voyage ». Les filles sont très conscientes de ce compte à rebours qui a commencé. Ça fait déjà 2 semaines qu'elles parlent beaucoup de la maison et qu'elles parlent du retour, de ce qui les attend, de ce qu'elles vont avoir envie de faire, de qui elles vont avoir envie de voir. On sent qu'elles commencent un peu à fatiguer du voyage et elles nous réclament le retour. Daniel et moi, on n'est pas encore prêts à rentrer. On a vraiment envie de vivre cette aventure de la Colombie qui est un mystère pour nous mais qui nous attire énormément. Et on est content d'avoir ce mois et demi devant nous pour bien découvrir le pays. Je ne sais pas dire pourquoi on a choisi la Colombie. C'est un pays dont on a entendu un peu parler avant de partir en voyage. Et puis surtout, on a compris que c'était beaucoup plus safe d'un point de vue touristique. Donc on n'est pas inquiet sur les conditions de sécurité. Et par ailleurs, on a été rassurés dans ce choix par de nombreux voyageurs qu'on a croisés sur notre chemin et qui sont allés voyager en Colombie et qui nous ont fait un super retour d'expérience. On atterrit à Bogota à 6h du matin. Procédure habituelle, on passe l'immigration, on récupère nos bagages, on prend une carte SIM à l'aéroport, on retire de l'argent et puis on sort de l'aéroport pour prendre un taxi. Donc là, on prend bien les taxis officiels, on en prend 2 parce qu'on ne peut pas tous tenir dans un taxi. Et on se retrouve à l'auberge de jeunesse qu'on a réservée dans le quartier de la Candelaria. Quand je dis qu'on sait que les conditions de sécurité se sont améliorées en Colombie, c'est qu'on sait qu'il y a une vraie différence avec ce que c'était il y a quelques années. Mais on a aussi bien conscience que ce n'est pas un pays où on va partout se déplacer librement sans faire gaffe. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on a choisi le quartier de la Candelaria pour loger à Bogota ses premières nuits, parce que c'est un quartier qui est proche du centre historique et on sait que la journée c'est assez sympathique, chaleureux, et que le soir c'est pas un endroit forcément génial pour sortir, mais nous on n'a pas prévu de sortir, donc ça nous dérange pas. On arrive devant l'auberge de jeunesse à 7h30 du matin, et là il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de code, il n'y a rien, on n'a pas de numéro de téléphone. Donc on toque à la porte et puis quelqu'un finit par nous ouvrir. C'est une jeune femme qui nous ouvre la porte et qui nous accueille. En fait, c'est la personne qui travaille en roulement avec une autre collègue sur la gestion de cette auberge de jeunesse. Et elle s'assoit à son bureau, on vient avec elle et on fait l'enregistrement des formalités pour notre séjour. Là, il y a quelque chose qui me saute immédiatement aux yeux. C'est peut-être ma déformation par rapport à notre voyage en Asie et ce qu'on a vu des femmes en Asie. Mais cette jeune femme, qui n'est pas très grande, elle est très voluptueuse et elle est habillée de façon très moulante et surtout elle a un décolleté plongeant qui est béant, quoi. On voit presque sa poitrine et ça me surprend. Et en fait, je suis même marquée par cette liberté qu'a cette jeune femme d'être habillée de la manière qui lui plaise. Et ça, c'est quelque chose que je vais remarquer pendant tout notre séjour en Colombie, parce que les femmes, elles s'habillent à leur goût, quelle que soit leur forme. Elles sont souvent très voluptueuses et ça vient casser un peu ce rigorisme qu'on a en France, ou ce lien avec l'image où les femmes doivent être minces, il faut faire très attention, respecter des codes dans la manière de s'habiller. Et là, on sent une forme de liberté et ça me surprend, mais dans le côté positif, quoi. Je suis assez heureuse de voir ça. Swann le remarque aussi, et c'est vrai que c'est un sujet d'échange parce que là, depuis le début du voyage, on a vraiment pu observer nos filles grandir, dont deux adolescentes. La première, plutôt rentrée dans l'adolescence, et Swann passée d'un corps de jeune fille à un corps de jeune femme. Et c'est vrai que quand on était en Inde, dans ces pays musulmans aussi, on a fait attention, et moi je l'ai briefée sur le fait qu'elle avait un corps de femme, même si elle se considère comme plutôt une jeune fille, et qu'il fallait qu'elle se couvre, qu'elle fasse un peu attention par rapport à la culture du pays, et ça l'a beaucoup ennuyée, embêtée quoi. Et là, elle retrouve une forme de candeur et de liberté dans la manière de s'habiller, donc elle remet ses shorts courts, ses petits tops, crop top comme on dit, et elle ressent cette liberté, et moi je suis heureuse pour elle en fait, qu'elle se sente libre de pouvoir s'habiller comme elle le souhaite. On prend nos marques dans cette auberge de jeunesse en attendant que nos chambres se libèrent. Et là, c'est chouette parce qu'il y a une table de ping-pong, il y a des espaces partagés, une cuisine, un salon. Donc, les filles vont jouer un peu au ping-pong, on s'installe pour travailler, bouquiner, regarder un peu la télé. Il y a une télé dans le salon. Et puis, finalement, on sort déjeuner parce que les chambres sont toujours pas prêtes et en fait, on n'arrive pas à avoir l'information d'à quelle heure elles sont prêtes. Donc ça, c'est un autre aspect de la Colombie où... Voilà, au niveau des horaires, rien n'est jamais complètement sûr. Et on sort dans le quartier attenant, qui est hyper joli, hyper sympa. Mais c'est vrai que quand on sort du resto, on est sollicité pour acheter tout un tas de choses, de l'alcool qui est artisanal dans la rue, de l'herbe. Et puis, Daniel, il se voit même proposer de la cocaïne. Donc, bon, on a conscience qu'on est quand même à Bogota. On n'est pas sollicité de manière agressive, les gens ont même le sourire, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on s'imagine que le soir, ça doit être un quartier où il y a de la fête et de la drogue qui circule. D'ailleurs, on en apprend plus tard sur la réglementation par rapport à la drogue en Colombie. Et on peut se balader avec un maximum de 1 gramme de cocaïne sur soi sans être embêté par la police. Et donc, ça donne un petit peu l'état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que dans l'auberge de jeunesse, il y a un espace ouvert, une espèce de terrasse patio couverte et des plates-bandes. Et dans les plates-bandes, ben, l'après-midi, on découvre qu'il y a du cannabis qui pousse dans ces plates-bandes. On est super content de revenir après déjeuner, de pouvoir accéder à nos chambres. On prend nos quartiers et puis on se met un petit peu au rythme de l'auberge de jeunesse. Donc c'est des backpackers qui vont, qui viennent, et de la musique de 7h à 22h. Donc on se met dans le bain, mais on se dit « Ok, nous, je crois qu'on a passé l'âge. On va passer 2 jours ici, le temps de préparer la suite du périple, qu'on ne sait pas encore comment on va organiser. » Et puis ensuite, on s'en va. On fait le bilan avec Daniel. Et comme les 6 dernières semaines, on n'a pas été très indépendant au niveau des transports et du programme, on a fini le Costa Rica avec mes parents sur un voyage qui était plus organisé. Et puis en Bolivie, on était en bus tout le temps. Là, on a envie d'être autonome. Donc notre première décision, c'est de partir sur les 2 premières semaines en road trip, en louant un véhicule sur place. Moi, j'avais lu que ça se faisait assez facilement, même si je suis un petit peu inquiète à la fois de la circulation. Je me dis, je sais pas, j'ai le sentiment que ça va pas être évident. Et puis l'autre truc, c'est je me dis, il faut qu'on respecte certaines règles, ne pas circuler la nuit, par exemple, pour pas se faire agresser. On se met d'accord sur les grandes étapes de notre séjour en Colombie. Donc, il va y avoir 2 semaines de road trip. Ensuite, on prévoit de passer 2 semaines sur la côte Pacifique, qui est finalement l'objet de notre visite de la Colombie. C'est qu'on voulait découvrir la Colombie et on sait qu'il y a du surf sur la côte Pacifique dans un univers assez sauvage. Et ça, c'est vraiment le pourquoi de notre choix de destination. Et enfin, on finira avec nos copains Alex et Sophie, qui sont des copains de France, qui vont venir en Colombie pour nos 2 dernières semaines. Et là, on s'est calé déjà en avance au mois d'avril sur les étapes de notre séjour ensemble. On réserve donc une voiture de location par Internet qu'on ira chercher dans 2 jours pour partir. Et puis surtout, on se dit aussi en termes d'hébergement, là nous on veut sortir de la ville, on veut être ouvert et on a besoin de quelques jours pour se reposer, se relaxer de tous les transports qu'on a fait ces dernières semaines. Et on veut un endroit confortable. Donc on trouve une finca, donc c'est une ferme qui appartient à une famille qui habite à Bogota, qui est à 70 km de Bogota, donc c'est pas trop loin. Et les photos qu'on voit sur le Airbnb ont l'air super, il y a l'air d'avoir un bel espace extérieur. Donc on réserve cet Airbnb où on sera en indépendance, on pourra acheter de la nourriture, se faire à manger et dormir confortablement sans avoir de la musique à toute heure du jour et de la nuit. Ça, c'est calé. On a un deuxième sujet à caler, c'est que on est quand même très chargé. On va être en véhicule, ensuite on va aller sur la côte Pacifique et on sait qu'on va y accéder par des petits avions. En fait, on va prendre quelques vols intérieurs en Colombie et les tarifs passent du simple au double quand on met des bagages en soute. Donc nous, on décide de voyager léger parce qu'on trouve ça vraiment agréable. Donc on fait un tri dans nos affaires, surtout qu'on a beaucoup d'affaires pour le froid qu'on a acheté en Bolivie. On met tout ça dans 2 sacs de voyage et on prend rendez-vous avec Bastien, qui est le cousin de notre copain Pierre, qui nous a rejoint en Indonésie avec Sophie. Et il habite à Bogota, Bastien. Donc on prend rendez-vous avec lui, on se cale avec lui pour pouvoir lui apporter ses bagages et les mettre en bagage sitting jusqu'à la fin de notre séjour en Colombie, avant de rentrer en France. Là, on réfléchit comment on va aller chez Bastien. Ça paraît bête, mais bon, on prend quand même toujours nos marques sur le niveau de sécurité dans le pays. On sait que les transports, c'est un sujet et qu'il ne faut pas monter avec n'importe qui. Donc, on s'est renseigné pareil sur les réseaux. Le réseau qui est le plus fiable semble être Uber. Donc, nous, on a l'application. On décide de réserver un taxi pour Uber. Bastien nous a donné l'adresse de destination. Et par contre, on décide aussi de laisser les enfants à l'auberge de jeunesse, de ne pas les emmener avec nous. Bon, déjà parce qu'on va juste déposer des bagages. Et en plus, parce que bon, on se dit que ça sera plus confortable, qu'on ne veut pas expérimenter un problème de transport avec nos enfants avec nous. Donc le chauffeur nous récupère au bout de la rue. On y va. Et puis on commence à rouler. Il essaye de sympathiser avec nous. Il est vraiment très très gentil. Et puis, à un moment, on arrive dans un quartier où il commence à nous dire que c'est un quartier très dangereux. Donc, il se met à accélérer. Et c'est vrai que quand on regarde à l'extérieur, on voit des gens dans la rue qui sont d'une extrême pauvreté. Ils ont tous un air un petit peu hagard. Donc, c'est pas très rassurant. Et là, il se met à griller des stops, des priorités, enfin, à rouler vraiment plus vite. Donc, on comprend que c'est pas un super quartier. Et au bout de 20 minutes de conduite, on arrive à notre destination. Et ça nous paraît un petit peu étrange parce que ce que nous a dit Bastien, c'est qu'il était proche du centre-ville. Et là, on est quand même un peu à l'extérieur. Et le chauffeur, d'ailleurs, il dit, moi, je veux que vous vous assuriez que ce soit bien là parce que je ne vous dépose pas sans être sûr que ce soit votre point de destination. Et donc on regarde autour, on appelle Bastien, on lui dit ce qu'on voit et en fait on se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau des artères dans cette ville, à Bogota, ben il y a des mêmes numéros de rue, mais l'indication supplémentaire, ça va être nord, sud, est, ouest. Et bref, on n'est pas dans la bonne orientation. Et donc, on n'est pas du tout à l'endroit où Bastien nous a donné rendez-vous. Donc, le chauffeur dit, écoutez, passez-le-moi, on lui passe Bastien, et là, ils reprennent en espagnol, et il lui explique exactement où est-ce qu'on doit aller. Et le gars dit, bon, ben, la course est finie, mais moi, je vous emmène, je ne vous laisse pas ici tout seul. On est hyper surpris par la bienveillance de cet homme qui dit non, moi je vous laisse pas ici. Donc on reconduit dans l'autre sens, presque on fait chemin inverse. Et il nous faut une trentaine de minutes pour rejoindre notre destination. Et là, voilà, le Bastien sort, on le voit, le chauffeur nous ouvre la porte, il dit ok, je vous dépose là. Donc on lui donne un beau billet en liquide parce que c'était quand même hyper sympa de sa part. Et puis, on prend aussi son numéro de téléphone en disant que potentiellement, on pourrait faire appel à lui pour se déplacer à nouveau dans Bogota. On se dit qu'une fois de plus, on a été accompagné, je dirais, par une bonne étoile, ou en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bienveillants sur notre planète. Mais peut-être qu'en France, on l'expérimente pas souvent, ou bien on n'y fait pas attention. Mais dans notre voyage, on est beaucoup, ben, on n'est qu'en présence d'inconnus et on a eu beaucoup de rencontres de ce type qui nous ont très agréablement surprises. Bon, ça, c'est une bonne chose de fait. Les bagages sont transmis à Bastien. On rentre à l'auberge de jeunesse et on se dit quand même on va être content de repartir le lendemain à la campagne. Et quand on arrive, on entend des voix françaises et là, on fait connaissance avec un couple qui a une petite fille qui a 4 ans, je crois, avec qui Violette a lié amitié et elles sont en train de jouer dans le patio de l'auberge de jeunesse. Je sens que ce couple, il est un petit peu fuyant dans ses conversations, mais néanmoins, on arrive à discuter un petit peu. Et puis, comme c'est vendredi, les vendredis soirs, il y a des animations à l'auberge de jeunesse. Et là, il y a une animation salsa. Il y a un prof de salsa qui vient et voilà, moi je décide de participer. Bon, la danse, c'est ma grande passion. Je danse pas la salsa, mais je sais que ça va me plaire. Swan aussi participe, Violette. Et puis, ce qui est sympa, c'est que cette auberge de jeunesse, elle héberge aussi des gens qui travaillent la semaine à Bogota et qui dorment ici le soir. Et il y en a, c'est leur dernière soirée, ils prendront la route le lendemain ou les transports, les bus pour rejoindre leur village à l'extérieur de Bogota. Donc il y a un peu du monde qui participe et on fait cette soirée dansante. Et pendant ce temps-là, pendant ce cours, Daniel il sympathise avec le couple et puis il commande des pizzas et on dîne tous ensemble. Ce sont les garçons qui sont allés chercher les pizzas, ils en ont profité pour acheter du rhum. Et donc après le dîner, on couche les enfants et puis nous on commence à boire un verre de rhum, un deuxième verre de rhum. Et là on brise la glace. Ce couple finit par nous expliquer que ça fait un mois qu'ils sont en Colombie. Et c'est la jeune femme qui depuis 5 ans est à la recherche de sa mère. En fait elle a été adoptée par un couple de Français quand elle était bébé. Et elle recherche ses origines depuis plusieurs années. Qu'elle a remué ciel et terre auprès des administrations. Ils sont déjà venus en Colombie il y a quelques années pour essayer de la trouver. Et là, elle tient une piste vraiment sérieuse. Et elle a pris contact avec sa mère biologique. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fixé un rendez-vous physique, mais ce rendez-vous n'arrête pas d'être repoussé. Et là, ils sont à une semaine de rentrer en France et il y a la pression qui monte autour de ces retrouvailles. On continue les discussions et c'est vrai que moi, je ressens quand même une forme de fragilité chez chacun d'entre eux. Et d'ailleurs, son compagnon nous dit assez vite aussi qu'il est, qu'il est issu de la DAS. Et donc là, on se dit « Ah ouais, c'est une sacrée histoire hein, qu'ils ont tous les deux ». Et puis la soirée avance et moi j'arrête de boire du rhum et tous les trois, parce que Daniel est avec eux, ils continuent de boire. Puis moi à un moment je suis trop fatiguée, je descends me coucher. Et je me dis bon, j'espère que ça va bien se passer là-haut et qu'ils vont pas avoir des idées de vouloir sortir parce que je sens qu'ils sont en grande forme. Puis à 4 heures du matin, je me réveille en sursaut et Daniel n'est toujours pas là. Donc là, je me prends un coup de stress parce que je m'imagine un peu le pire. Je me dis, bah, ils ont peut-être beaucoup bu, ils ont décidé d'aller sortir dans le quartier. On entend la musique, nous, de notre chambre. Il y a de la musique dans tout le quartier. On sait que c'est un quartier de boîtes de nuit, de bars dansants et de drogue, bien sûr. Et je me dis, bah, si ça se trouve, ils sont sortis. Imagine, il lui est arrivé quelque chose. Enfin bref, remonte dans la cuisine et là je vois qu'il reste les deux garçons. Ils sont encore en train de discuter et je demande tout va bien et je regarde Daniel dans les yeux et il me fait un signe m'expliquant que ça va et qu'il va pas tarder mais que tout va bien. Je me couche plus ou moins confiante et puis le lendemain matin quand je me réveille, Daniel est là, on débriefe et puis il me dit que tout va bien. Il est juste bien fatigué parce qu'il a peu dormi et quand même pas mal bu. Mais il me rassure sur le fait qu'il a bien senti que c'était une situation où le gars en question, il voulait sortir, mais que c'était potentiellement dangereux et qu'il était hors de question qu'il nous laisse seuls dans cette auberge de jeunesse sans savoir ce qui allait se passer dehors. Donc ça me rassure parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vécu ce type de situation depuis qu'on est parti en voyage et surtout on ne s'est pas séparés tous les deux comme ça pour une soirée. Et ouais, ça m'inquiétait de me dire s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait à l'autre bout du monde? Qu'est-ce que je fais moi avec mes trois enfants et un Daniel qui peut être en difficulté par une agression, une blessure ou encore sous l'effet de drogue qu'il aurait pris consciemment, quoi. En fait, ce type de situation aurait pu se produire ailleurs, mais c'est vrai que le contexte de la Colombie, il est particulier, donc nous, on y prête une attention particulière, contrairement à l'Asie, où c'est vrai qu'on s'est baladé en Asie de manière très décontractée, sans avoir perçu aucun sentiment de menace, en tout cas de par l'environnement. En tout cas, on est prêt le lendemain pour quitter l'auberge de jeunesse et aller se mettre au vert. Là, on a envie d'être à la campagne et d'avoir notre endroit chez nous, d'être un peu tranquille. On prend un Uber pour aller au centre commercial où on va récupérer notre véhicule de location. Et là, on fait aussi quelques courses, on fait un gros plein de courses même, pour être autonome dès lors qu'on arrive dans notre logement. On prend en main la voiture et c'est là qu'on découvre une autre facette de la Colombie et qu'on va vivre tout au long de notre séjour. C'est la circulation. Alors c'est vrai que la circulation en Colombie, bah, c'est très très aléatoire, c'est souvent très encombré. Beaucoup d'embouteillages, même en campagne, parce qu'en fait, les grands axes, ils sont rares. Et avec les pluies diluviennes, en montagne en tout cas, ça crée des éboulements, ça crée des coulées de boue. Et tout ça, ça fait qu'il y a des travaux sans cesse sur les routes, la circulation qui est fermée de manière alternative. Enfin bref, rien que de sortir de Bogota, c'est une expérience. La conduite, on a l'impression qu'il y a zéro règle. Clairement, on met 2 heures pour sortir de Bogota et c'est un moment de grand stress. Et Daniel, il est confiant, il dit ça va le faire. Heureusement qu'on combine nos qualités respectives de patience et de confiance. Ça nous permet d'arriver à un bon port. Alors, on met, je crois, presque 2 heures et demie pour faire 70 km, ce qui est quand même énorme. Et ce qui est cool, c'est quand on arrive à Tibacui, où on va passer quelques jours, on est super bien accueilli par Luis, qui est le gardien de cette maison, cette résidence secondaire, et qui vit sur place. Et il est très content de nous accueillir et de nous faire faire le tour de la maison et du jardin. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 33 sur la suite de notre road trip en Colombie. À bientôt!